الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أما بعد، mes chers jeunes frères et moins jeunes frères, mes chers mères et sœurs, en ce début du 21e siècle, vous êtes témoins plus que jamais d'un véritable tsunami sexuel. Booster votre sexualité, comment vivre épanoui, les 10 trucs pour vraiment prendre plaisir au lit, comment stimuler sa libido. Bref, il est impossible de se rendre dans un rayon de livres et de magazines sans qu'il n'y ait un article, une page, voire carrément un dossier entièrement consacré à la sexualité. La page sexo d'un magazine, elle est inévitable. Dans les médias visuels, eh bien, l'exposition du corps, la nudité, ces choses-là sont également encore présentes. Zappez comme vous le voulez devant votre télévision et vous finissez toujours par tomber dessus. Films, feuilletons, séries, des publicités. Il est impossible de vendre un produit sans que l'image du corps, de la sensualité, de l'érotisme, de la sexualité n'y soit liée. Un parfum, un dentifrice, un matelas, une armoire, rien ne se vend sans qu'il y ait l'objet non vendu sexuel qui est à côté. Un clip, normalement, principalement, ça devrait être de la musique, mais on finit par oublier le son pour ne retenir que l'image. Et au cinéma, devant votre ordinateur, internet, vous voyez que l'exposition du corps et la nudité sont encore présents. Le stimulus sexuel, la nudité et l'exposition du corps invitant au désir sont omniprésents partout autour de vous. Parfois, c'est soft, parfois, c'est moins soft, on dirait que c'est hard. La pornographie, premier rang sur le marché cinématographique mondial. Et là, à travers tous ces supports, livres, magazines, télé, cinéma, internet, eh bien, c'est toujours toute la panoplie de la sexualité qui se retrouve au grand complet devant vous. Et à chaque fois, c'est la promotion du plaisir. C'est l'invitation et la suggestion à l'assouvissement de ses désirs. Et ce n'est pas terminé, parce que dehors, ça continue. Dans la rue, au travail, à l'école, les jeunes qui sont là le savent, collège, lycée, université, rien n'y échappe. Partout, il y a cette invitation à assouvir ses désirs, à des degrés, bien sûr, différents et divers, mais la vie quotidienne étale, mes frères, devant nous tous les spectacles de la sexualité. Et vous voyez vos copains et vos copines à l'école et ailleurs qui font plein de choses et ils paraissent très épanouis, ils en sont très fiers et joyeux. On a bien l'impression que c'est très amusant ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils nous y invitent également quelquefois. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller vers le mal. C'est le mal qui vient vers nous. Il y a la fête du bahut, hein, les soirées étudiantes, élection de Mister pour les filles, élection de Miss pour les garçons, Miss lycée, Miss université. De toute façon, il y a toutes sortes de Miss, Miss Goyave, Miss Tichette mouillée, on voit de toutes les couleurs. Bref, tout cela pour dire que c'est partout. Vous n'avez pas encore mis les pieds en dehors de la masjid, vous n'avez pas franchi le seuil. Et la tentation s'offre déjà à vous. Il fait chaud, vous savez, nous sommes sous les tropiques, la chaleur tropicale, et vous allez à la plage, c'est votre droit de vous baigner, comme on dit, mais là également, quelle scène ! Vous ne savez plus à quel sein se vouer. Comment faire? Et de toutes parts, mes frères, j'espère ne pas heurter la sensibilité de certains, mais je l'avais prévenu à ceux qui m'ont proposé le thème. Ils m'ont dit, c'est comme ça, on fait comme ça. Alors, Inch'Allah, tout le monde va jouer le jeu, entre guillemets, mais il faut que ce soit assez clair et que ça reflète vraiment la réalité. Et la réalité, elle est celle-là. La réalité, elle est celle-là, mes frères? Les magazines, c'est bien comme ça? À la télé, c'est comme ça? Et au cinéma? Et devant votre ordinateur? C'est comme ça, oui ou non? Qui ça dit oui, là? Bon, bref, c'est vrai, mes frères, on comprend que c'est vraiment une réalité. Donc, voilà tout ce dont vous êtes témoin. Tout ce dont vous êtes témoin. Tout ce que vous voyez partout autour de vous. Je n'ai pas tout cité de ce que vous voyez, mes frères. Allah, il sait vraiment que c'est encore au-delà de ce qu'on a cité ici. Il y a donc tout cela, ce véritable tsunami, cette promesse du nirvana et de l'accession au septième ciel, d'un côté. Et à côté de cela, il y a vous, Ahmad, Mohammed, Bilal, Fatima, Aïcha, Fasiha, jeunes êtres, porteur d'une foi musulman et croyant. Et entre les deux, eh bien, vous ne savez plus parfois trop bien vous situer. D'un côté, la tentation qui vous attire, de l'autre côté, votre foi qui essaye de vous retenir, et vous ne savez plus trop où est-ce que vous en êtes exactement. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur, vous êtes tiraillé de l'intérieur. Eh bien, mes frères, que ce soit bien clair entre nous. De savoir d'emblée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il a voulu pour chacun de nous, dans cette première étape de sa vie, un état d'innocence. Le bébé, l'enfant qui grandit, il est dans un état d'innocence, ma'soum. Il ne fait que remplir certains besoins vitaux, de manger, de boire, de dormir, etc. Et après cela, cet enfant, il grandit. Il grandit jusqu'à ce qu'il arrive un jour à cette étape cruciale de sa vie, qu'est l'âge de la puberté. J'aime bien dire que c'est le moment où la zèle pousse, comme on dit. la zèle pousse, beaucoup d'autres choses poussent d'ailleurs de part et d'autre de votre corps, et vous êtes finalement témoin d'une transformation dans votre vie. C'est la voie vers la maturité. Vous grandissez. Et vous manifestez ainsi un désir en vous. Et automatiquement, vous êtes attiré par le sexe opposé. On parle de la normalité, hein. Les garçons qui sont attirés par les filles et les filles qui sont attirées par les garçons. Et cela, mes frères, vous devez le savoir, parce que finalement, eh bien, nous sommes tous programmés pour être dépendants à l'autre. Nous sommes conditionnés tous par le besoin. Allah est unique. Et après lui, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé par couple. L'homme qui tend vers la femme qui tend vers l'homme. Et ça, nous devons le savoir. Et ce qui fait que, mes frères, votre désir, votre envie, les pulsions, les désirs charnels, les instincts charnels, les appels de votre corps, tout cela, vous devez savoir que c'est naturel. Vous devez savoir d'emblée que tout ça, c'est naturel. C'est normal. Vous n'avez aucune culpabilité à ressentir par rapport à cela. Vous ne pouvez vous sentir coupable de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé lui-même en vous. Le désir et les pulsions. L'appel vers l'assouvissement d'un désir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a placé en vous. Donc, aucune culpabilité. Mais par contre, oui, pas de culpabilité, mais responsabilité. De l'état d'innocence, vous êtes maintenant passé à l'état de la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, voilà, je place cela en toi et maintenant je regarde ce que tu en fais. Vous devenez devant Allah subhanahu wa ta'ala responsable. On a maintenant la responsabilité de la gestion, comme Mufti Shakil l'a dit, de la gestion de ses désirs et de ses instincts charnels. Et ceci est tout à fait normal. Voyez-vous, lorsque le désir s'éveille en vous, vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, lorsqu'un bon matin, vous vous réveillez et que vous voyez la carte de la réunion dessinée en relief quelque part sur votre vêtement. Subhanallah, vous avez grandi. C'est normal. Et maintenant, eh bien, il y a des choses qui se manifestent en vous. Mais vous n'avez là que 15 ans, que 16 ans, 17 ans. Et vous vous dites que de toute façon, papa la fin de moins, pas avant 25 ans, de toute façon marié. Donc il y a l'appel du désir à 15 ans. Et on vous a bien dit que la concrétisation de ce désir dans 10 ans, minimum. Et vous vous dites alors, comment on va faire? Ça ne va pas être facile. Mais n'a pas attendre. Et oui, le chemin est long. Et c'est pourquoi, mes frères, le devoir de la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Votre responsabilité maintenant, elle consiste en quoi? À vous maîtriser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en islam, l'expression de la sexualité, elle n'existe que dans l'union de deux êtres devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule et unique voie, mes frères. Il y a le nikah et c'est tout. C'est la meilleure des choses, on va le voir. Mais il n'y a pas d'autre moyen licite devant Allah. Et donc, vous aurez un cheminement, tout un cheminement, et vous aurez une attente jusqu'à ce qu'arrive ce moment qui vous a été, inshallah, promis. Et c'est pourquoi, en attendant, eh bien, le devoir premier de la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vraiment, mes frères, je veux que vous le compreniez. Parce que beaucoup se demandent que qu'est-ce qu'il va nous proposer? Eh bien, mes frères, je propose ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé. Fasabrun jamil, une belle patience et la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est véritablement le défi des jeunes d'aujourd'hui. Le véritable défi que chacun de nous, nous avons à relever devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça signifie que pour relever ce défi, eh bien, je vais devoir déployer des efforts, mes frères. Choisir la chasteté. Le isti'faf. Rester pur jusqu'à ce que j'entre dans une union licite. Vous savez, la chasteté, elle ne s'impose pas d'elle-même. Elle ne viendra pas en vous comme ça. Il va falloir réellement faire des efforts pour rester chaste et se maîtriser jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes de ce qui est halal et de ce qui est licite. Et lorsque l'être humain aura appris à se maîtriser, eh bien, la récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Vous savez, celui qui se retient de quelque chose dans ce dunya par crainte d'Allah, Allah ta'ala, même dans ce monde et dans le akhirat, va lui donner des choses bien meilleures, mes frères. Il nous faut juste attendre un peu. Les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous rappellent l'histoire de Dhul-Kifl. Dhul-Kifl était un homme parmi les Banu Israël, parmi les Israélites. Le hadith dit « La yatawarra'u min dhanbin fa'amilahu » Lui, il ne lâchait rien du tout. Il commettait tous les péchés qu'il avait l'occasion de commettre. Et lorsqu'un jour, il propose à une femme en disant « Je te donne 60 pièces d'or pour que tu t'offres à moi. » Cette femme accepte. Lorsque Dhul-Kifl se trouve dans la situation de ce qu'un homme peut faire avec une femme, eh bien cette femme se met à trembler et elle pleure. Dhul-Kifl, qui la regarde et qui a l'impression de dire « Mon figuier ne plaît pas où ? Hein ? Il y a quelque chose qui te déplaît sur moi ?» Et cette femme, il dit « Non, parce que ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. » Dhul-Kifl dit « Oui, mais tu es là. Comment tu expliques ça ?» Il dit « Parce que là, j'étais vraiment dans le besoin. Et la promesse de ces 60 pièces d'or a fait que j'ai accepté ce que tu m'as proposé. » À ce moment-là, Dhul-Kifl, et ça c'est mes frères, la possibilité que chacun de nous avons d'acheter le paradis par la maîtrise de soi. De ce point de peut-être pour beaucoup d'entre nous, on pourrait imaginer que c'est un point de non-retour. Dhul-Kifl fait marche arrière. Il dit à la femme, prends l'argent. Et ensuite, devant Allah, il dit, La ya'sullaha Dhul-Kifl abada. Maintenant, Dhul-Kifl ne désobéira plus jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend la résolution ferme. Et je vous ai pris le cas de qui ? D'un homme qui était déjà dans le péché, qui faisait déjà beaucoup de mal. Ce jour-là, la crainte d'Allah est entrée en lui, et dit Dhul-Kifl ne désobéira plus à Allah. فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ Allah a voulu que cette nuit-là, lorsqu'il s'était réfugié dans la crainte d'Allah, Allah Ta'ala a repris son âme. فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ Et le matin, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la porte de la maison de Dhul-Kifl, il était écrit « Ghafarallahu li Dhul-Kifl » Allah Ta'ala a pardonné Dhul-Kifl. Wallah, mes frères, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on va cultiver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Nous savons tous le récit de cet homme, de ces trois hommes lorsqu'ils sont restés enfermés dans une grotte obstruée par un rocher. Chacun a fait un dua pour qu'Allah Ta'ala accepte son action et enlève ce rocher de là. Et bien parmi ces trois hommes, il y avait un qui avait raconté son histoire en disant que moi j'avais une cousine dont j'étais éperdument amoureux. Je l'aimais d'un amour intense comme un homme peut aimer vraiment une femme. Et je lui ai proposé de s'offrir à moi. Elle a refusé. Et un jour, lorsque la situation était difficile, une situation de famine, cette cousine vient me voir pour que je l'aide pour avoir de quoi manger. Je lui dis oui, 120 pièces d'or pour toi si tu viens vers moi. Et sous la pression du besoin, elle finit par accepter. L'homme raconte lui-même dans ce hadith son histoire en disant « Falamma qa'attu bayna rijlayha » que lorsque je me suis assis et j'ai été entre ses deux jambes. C'est pourquoi mes frères, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Il dit que lorsque cet homme était devant l'acte, à ce moment la femme prononce une parole. Si Wallah, mes frères, nous faisons entrer ça en nous, c'est vrai que c'est facile à dire, mais si vraiment nous travaillons cela pour faire entrer ça au fond de nous, par Allah, nous aurons réussi. Cette femme lui dit, ittaqillah, crains Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Et n'essaie pas de rompre l'iman, n'essaie pas d'ouvrir ce qui est fermé si ce n'est par une voie licite. À ce moment, il se rhabille, il laisse l'argent et il s'en va. Par la crainte d'Allah uniquement, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son action, Allah déplace le rocher. Pourquoi? Il a eu la crainte d'Allah. Un jeune me l'a dit une fois, Moulissab. C'était fait. Dans la chambre, on était là. Sur le lit, au dernier moment, je me suis levé, je me suis rhabillé, je suis parti. Je dis pas Allah, si c'est pas la crainte d'Allah, tu as peut-être acheté ton paradis. Sabaratun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tout à l'heure, on l'a entendu. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre d'Allah, où l'humanité entière sera en train de se noyer dans sa transpiration, il y aura sept catégories de gens qui seront privilégiés et elles seront sous l'ombre du trône d'Allah, l'unique ombre qui existera ce jour. Et parmi ces sept catégories, رَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Un homme à qui une femme belle, de haut rang, fait une proposition pour accomplir le mal, et cet homme dit, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Ce jour-là où il sera, mes frères, privilégié par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il a cultivé la crainte d'Allah en lui et il s'est retenu devant Allah. Et autant, mes frères, les récompenses liées à cela sont grandes et autant les avertissements sont sévères. Souvent on dit, non, on ne fait pas trop peur. On ne veut pas faire peur. Le but n'est pas de faire peur, mais de faire prendre conscience. Et Rasulullah l'a dit en des termes très sévères lorsqu'il a dit, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Que celui qui commet la fornication, eh bien au moment où il commet le zina et la fornication, il n'est plus un véritable croyant. La lumière de la foi s'enlève de cette personne. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'ascension, lorsqu'il voit les différents châtiments des gens de l'enfer, il passe. فَانْتَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ. Nous avons marché et nous sommes venus comme devant un genre de four. C'est chaud à l'intérieur. Et فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ. À l'intérieur, il y a des gens qui hurlent, qui crient. Et lorsqu'on regarde dedans, فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ. Il y a des hommes et des femmes qui sont nus là-dedans, dans cette chaleur de ce four de l'enfer. Et de temps en temps, une flamme vient du dessous et ces personnes crient et hurlent encore. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a demandé par la suite, ses accompagnateurs lui ont dit que ces gens-là sont qui ? فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِ. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ce sont ceux qui n'ont pas su se retenir. Ceux qui ont laissé libre cours à leurs pulsions, c'est ceux qui se sont laissés aller vers l'adultère, le zina et la fornication. Et ça, mes frères, c'est important pour nous de savoir que le istighfar, la chasteté, elle n'est pas impossible. J'ai discuté encore avec un jeune avant la Maghrib. Il m'a dit, oui Moussa, mais comment il fait? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé de quelque chose qui est impossible. Mon Shafali Tanwi, rahmatullah alayhi, disait que dans le mujahada, il y a deux choses. Lorsqu'il faut faire un effort, il y a deux choses. Il y a d'abord la difficulté, c'est sûr, il y a une difficulté. Vous étudiez, est-ce que c'est facile de réussir vos études? Vous travaillez, est-ce que c'est facile de gagner sa vie? Il y a des difficultés. C'est normal. Mais en même temps, mon Shafali Tanwi dit deuxième chose qu'il y a, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Le mujahada, il est possible. Et Allah Ta'ala ne nous a pas imposé ce dont nous ne sommes pas capables. Vous connaissez tous l'histoire de Yusuf alayhi salatu wa salam. Mais je peux vous la rappeler cette histoire. Que Yusuf alayhi salam, il est lui-même beau. Il est jeune. C'est un beau mec. Oui, il a la beauté. Et en face, il y a une belle femme. Ce n'est pas lui qui va, c'est la femme qui vient vers elle. La femme ferme toutes les portes. On n'a pas peur d'être surpris. En plus, il n'est pas chez lui, il est dans un pays étranger. Souvent, il dit, là, je vais faire des études en France, n'est plus arabe, pas pour vaillant moins. Hein? Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, il écrit, il dit que lorsqu'il y a des gens autour, eh bien, l'être humain, il a honte. فَإِذَا تَغَرَّبَ زَالَ هَذَا الْمَانِيَ. Lorsqu'il devient étranger, c'est-à-dire lorsqu'il voyage, il va quelque part, eh bien, cet obstacle-là disparaît. Je me souviens, nous-mêmes, on était à l'école, et lorsque le collège était terminé à Saint-Paul, on nous a dit que le lycée, c'est à Plateau-Caillou. Et tout le monde s'est dit, les jeunes qui étaient là, dit, super, là, on n'a plus d'arabes. Les arabes pouvaient y aller. Ça ne veut pas dire qu'on allait faire forcément des choses, mais le fait qu'il n'y ait pas ce regard des gens, eh bien, ça incite, ça pousse, ça nous libère du regard d'autrui. Et c'est ainsi que Youssouf alayhi salatu wassalam avait à son avantage tous ces éléments qui étaient en sa faveur. Et pourtant, nous avons vu dans son histoire qu'il est parti vers, il a choisi la fuite, il a choisi Allah. Et lorsqu'il a choisi Allah, Allah Ta'ala lui a ouvert les portes fermées. Il suffit de vouloir, mes frères. La première résolution que nous devons prendre, c'est de se dire que c'est possible et que, Inch'Allah, je vais faire. Je vais faire l'effort, Inch'Allah. Garçons et filles, c'est pas assez fort, ça. Ça me fait peur. Inch'Allah, mes frères. Inch'Allah. Ah oui, comme ça, oui. Mais malheureusement, mes frères, l'intention est de rester, hein. Mais il y a un constat alarmant, mes frères. Là, nous sommes dans cette masjid et nous ne sommes pas capables d'imaginer tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous le connaissez certainement mieux que moi. Les jeunes qui discutent entre eux, qui donnent l'adresse des meilleurs hôtels, qui donnent l'adresse des meilleurs coins où personne ne nous voit. Les jeunes, garçons et filles, attention, les deux, des deux côtés. Jeunes musulmans, je ne parle pas des autres, mes frères. C'est autre chose. Garçons et filles qui laissent libre cours et qui ont considéré cela comme une banalité. Les autres font, nous allons faire. Je ne peux pas raconter ni le temps ni l'occasion, mais de quoi nous donner des frissons, mes frères. Comment, dans cette ambiance, avec tous ces éléments favorables que nous avons, mes frères, nous ne voulons pas choisir ce qui est possible. Des invitations, avec toutes les facilités que nous avons aujourd'hui au niveau de la communication, eh bien, des soirées entre garçons et filles musulmanes qui se terminent mal, la promiscuité. Attention, je ne voudrais surtout pas encore là vous culpabiliser, mes frères. Sachez, le Qari Junaid a lu dans la salat de Maghrib, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Il faut toujours espérer qu'Allah nous pardonne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, nous prenions conscience, mes frères. Nous sommes partis sur une mauvaise voie, et nous devons prendre conscience que cela ne peut pas continuer ainsi. Sortez couvert, nous dit-on, et nous on finit par croire qu'il faut sortir vraiment couvert. Couvert de la taqwa, mes frères. Couvert de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas généraliser et considérer banal un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimé sévèrement. Et nous devons pour cela vraiment nous maîtriser et choisir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, c'est-à-dire la chasteté et la maîtrise de soi. Et l'étape de la fornication, nous savions bien que c'est une étape extrême, c'est-à-dire, c'est un peu l'étape finale. Et si on veut éviter l'étape finale, mes frères, eh bien, il nous faut choisir d'éviter ce qui sont les intermédiaires pour cette étape finale. Ça, c'est important. Souvent, lorsqu'on parle du regard, tout le monde commence à rire. Mes frères, le regard, c'est réellement un premier pas vers cette étape finale. Un de nos professeurs avait l'habitude de dire « Nazarun, thumma abtisamun, thumma takallumu, thumma maw'idun, thumma liqa'un. » Un regard, puis un sourire, puis une parole, puis un rendez-vous, puis la rencontre ultime et finale. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé, hein. C'est un regard, un sourire, « Bonjour mamzelle, salut beau mec. » je peux avoir ton numéro de téléphone? C'est souvent le premier réflexe, le numéro de téléphone. Déjà, on n'a encore rien eu, on a seulement un numéro de téléphone. Super, j'ai eu son numéro.